par la cité de Bunagana dans la province du Nord Kivu, République démocratique du Congo, tombée hier entre les mains du groupe armé M23, l'est encore jusqu'au moment où nous faisons cette émission ce mardi. Si la nuit de lundi est restée calme, des tirs ont été entendus dans la zone cet après-midi selon de nombreuses sources dans la région. Et toujours à Bunagana hier après-midi, des cas de pillage ont également été signalés. Le porte-parole du gouverneur qui appelle la population au calme lui demande également de faire confiance au FRDC, l'armée de la République démocratique du Congo. Entre-temps, deux assises de la CIRGL se tiennent en ce moment, une à Bujumbura et une à Kinshasa, pour examiner la question de la paix, la sécurisation de la région des Grands Lacs. Quelle analyse faire de l'évolution de la situation sécuritaire à Bunagana, mais également dans l'est de la RDC? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous accueillons Julien Paluku, ministre de l'Industrie de la RDC, également ancien gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Julien Paluku, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs, particulièrement ceux du Nord Kivu, de Rutshuru, Bunagana et ailleurs.
Mais aussi lieutenant-colonel Harvey, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur, bonsoir à tous.
Mon lieutenant-colonel, vous êtes officier de liaison de la MONUSCO auprès des FRDC. Enfin, Moïla Tchiembe, professeur d'université et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Moïla Tchiembe, bonsoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
La cité de Bunagana, dans la province du Nord Kivu, tombée hier entre les mains du groupe M23, l'est encore jusqu'au moment où nous faisons cette émission ce mardi soir. Si la nuit de lundi est restée calme, les tirs ont été entendus dans la zone cet après-midi selon de nombreuses sources dans la région. Et toujours à Bunagana, hier après-midi, des cas de pillage ont également été signalés. Le porte-parole du gouverneur de la province qui appelle la population au calme lui demande aussi de faire confiance au FRDC, Bernardin Nyangui.
Des tirs à l'arme lourde ont été entendus depuis 15 heures locales dans la zone de Bunagana ce mardi. Selon certaines sources locales, l'armée congolaise, qui est revenue à la charge, aurait délogé cet après-midi les rebelles du M23 de la zone dénommée Premidis entre Tchengerero et Bunagana. Toutefois, indique ces sources, Bunagana était encore occupée jusqu'en milieu de la journée ce mardi par les rebelles du M23, indique ces sources. Les cadres de base de Bunagana déplorent cependant, selon eux, des cas de pillage des boutiques, maisons d'habitation, magasins et même certains bureaux par ces rebelles durant la nuit dernière. Les butins qui auraient été chargés dans les camions avant de les traverser vers les pays voisins. Au sujet des populations déplacées vers l'Ouganda, le chef du groupement de Jomba indique qu'aucune assistance n'a été fournie jusqu'à présent. Goma, Bernard Nyangui, Radio Kapi.
Julien Paluku, ministre de l'Industrie, également ancien gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Julien Paluku, nous venons là d'entendre le récit de notre confrère Bernard Nyangui, mais à l'heure de notre émission, quelle autre information pouvez-vous déjà donner à l'opinion, vous qui êtes membre du gouvernement?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord apaiser toute la population du Nord qui veut dire que ça c'est déjà vu, c'est déjà entendu. On l'a vu, on l'a entendu en 97 avec l'AFDEL, en 98 avec le RCD, en 2004 avec Gilles Moutebousi et Laurent Kunda, 2006-2007 avec Laurent Kunda et SNDP, 2009 encore avec le SNDP rénové de Bosco Ntaganda et Makenga, et finalement en 2012 la naissance du M23. Donc, c'est déjà vu, c'est déjà entendu, que les gens soient calmes. Les mêmes revendications, FDLR, haine tribale, C'est des vieilles revendications qui reviennent toujours lorsque la République démocratique du Congo veut s'organiser. Vous rendrez compte que, aussitôt que les élections étaient organisées en 2011, la guerre a commencé en 2012. La même manière, quand on a organisé les élections en 2006, la guerre a commencé en 2007. Donc, aujourd'hui que maintenant, la RDC veut amorcer sa relance économique, la guerre recommence avec toujours les mêmes revendications. Alors que tout le monde le sait, à Bunagana, on allait lancer les travaux de l'asphaltage de la route Bunagana-Rutshuru-Goma, ensuite Kasindi-Beni-Butembo, qui constitue des piliers et des corridors de développement importants pour devoir promouvoir les échanges entre nous et la partie orientale de l'Afrique, notamment l'océan Indien. Donc, à chaque fois qu'on veut relancer notre machine économique, à chaque fois qu'on veut relancer le tourisme, comme c'est le cas avec la route qui allait passer, à chaque fois que les présidents venaient d'annoncer qu'il y aura une zone économique spéciale qui sera basée à l'Est, il y a toujours ce genre d'événements qui arrivent au motif que non, la RDC travaille avec les FDLR, alors que tout le monde sait que ces FDLR qui ont commis des forfaits chez eux sont les ennemis numéro un du peuple congolais. Ils tuent, ils violent, ils assassinent, ils incendient. Non pas au Rwanda, mais en République démocratique du Congo. Donc j'ai voulu faire cette sorte de rappel des faits pour que toute l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale, cesse de s'abreuver chaque jour sur les mensonges de notre voisin, le Rwanda. Il est notre voisin, il sera là tout le temps. Nous voulons bien développer des mécanismes de collaboration sincère avec lui, mais on doit cesser d'utiliser les vieilles revendications qui constituent en fait des revendications obsolètes et qui ne peuvent pas aujourd'hui constituer des éléments à vendre à la communauté internationale, si ce n'est évidemment des gens qui viennent apprendre l'histoire du Grand Lac et qui pensent que FDLR et haine tribale constituent des ingrédients qui peuvent envenimer les relations entre la RDC et le Rwanda. Donc pour moi, en conclusion, la guerre est plutôt économique. De 1998 en 2003, les Rwandais se retrouvaient sur le sol congolais pendant 5 ans, mais jamais le FDLR n'a été neutralisé. Au contraire, les Rwandais sont devenus parmi les grands producteurs et du coltan et de cassiterite. En janvier 2009, l'armée rwandaise a traversé pendant un mois, elle est allée dans les forêts de la RDC pour tenter d'éliminer cette question de FDLR. Alors, tous les efforts ont été faits par la RDC pour montrer sa bonne foi. Mais aujourd'hui, ça nous revient, la coalition FDLR plus FRDC, des vieilles choses qui tombent dans les oreilles, malheureusement dans les nouvelles oreilles des gens qui peut-être apprennent à être dirigés au niveau de la communauté internationale, peuvent croire à ce genre de choses.
Alors, donc, monsieur le ministre, ce soir, il y a des urgences, hein, comme vous pouvez l'imaginer, les populations de Bunagana qui ont été obligées de se déplacer et de se mettre à l'abri, se posent, j'imagine, la question, que fait le gouvernement, que font les militaires de notre pays et quand est-ce que nous pouvons regagner les chez nous et voir les nouveaux occupants partir le plus loin, sinon être vaincus? Ça, c'est la première question. Et une deuxième question qui est urgente, la RDC qui, depuis des années, comme vous l'avez rappelé, voit que l'un de ses voisins, le Rwanda, est très belliqueux, pourquoi la RDC a encore permis ou accepter qu'une nouvelle invasion, une nouvelle occupation soit opérée sur son territoire? Deux questions importantes.
Merci. Que fait la RDC? Ce n'est pas ici l'idée de donner des stratégies militaires. Quand j'étais gouverneur, vous m'avez suivi comment j'accompagnais nos forces armées. Je continue à les accompagner et j'ai la foi que cette nébuleuse-là qui a pris momentanément Bunagana va disparaître. Ça, c'est ma conviction et je sais que nos forces armées sont en train de monter en puissance, et le chef de l'État l'a rappelé dans une des réunions que les forces armées sont en train de monter en puissance, non pas pour faire la guerre aux voisins, mais pour se rassurer de l'intégrité de son territoire. Donc je voudrais apaiser la population aussi comme membre du gouvernement. Aucun espace du territoire national ne sera détenu par quelqu'un qui n'en a pas le pouvoir. Alors, comment on a toléré que les Rwandais permettent encore ou entrent encore sur le sol congolais? C'est pas nous qui l'avons fait. C'est évidemment, comme je vous ai dit, les aspects économiques que j'ai eu à développer tout à l'heure, qui peut-être ont gêné quelque part les Rwandais, l'ont amené à pouvoir utiliser d'autres arguments fallacieux qui n'en sont pas un. Alors, ce que je voudrais recommander aussi comme membre du gouvernement, c'est qu'on ne peut pas vivre sans les relations diplomatiques. On ne peut pas vivre sans des relations politiques. On ne peut pas vivre sans des relations fraternelles. Nous sommes des frères, nous sommes des amis, nous avons même des collègues avec certains dans les universités. Donc, il faudrait que la gouvernance au niveau de notre voisin se rassure de l'héritage qu'elle est en train de planter dans les chefs des habitants de la région des Grands Lacs, lorsque c'est lui qui doit être à l'origine de tous les mouvements insurrectionnels dans l'un des pays. Je crois qu'il faudrait qu'il s'interroge pour dire quel héritage vais-je laisser dans les Grands Lacs si, de par l'histoire, on va toujours considérer que c'est moi qui suis à la base de l'instabilité de la région des Grands Lacs. De deux, il faudrait que nos voisins sachent que la stabilité de la RDC ne créera pas l'instabilité des voisins. Au contraire, nous serons la locomotive du développement et tous vont bénéficier du développement économique de la RDC. La peur qu'ils ont de croire qu'en nous développant, ils vont s'agenouiller devant nous, c'est une peur inutile. L'Europe s'est organisée par l'Union européenne. Et donc nous avons intégré beaucoup d'organisations régionales pour comprendre que nous avons intérêt à tirer d'autres pays qui n'ont pas suffisamment de ressources de manière à les entraîner dans la locomotive de développement dont nous serons les pilotes. C'est le message que je voudrais adresser à tous qui pensent que, en nous déstabilisant, ils auront bien des causes. Ça aura une fin et la RDC s'organise pour se faire.
Merci Julien Palaloukou. Nous restons avec vous dans ce débat. Lieutenant-colonel Harvey, officier des liaisons de la MONUSCO auprès des FRDC, deux questions urgentes aussi pour vous. Que sait la MONUSCO de ce qui s'est passé hier et qui a débouché sur l'occupation de Bunagana? Et comme vous le savez, toute l'opinion congolaise surtout voudrait savoir où était la MONUSCO et qu'a fait la MONUSCO pendant ces événements et que compte faire la MONUSCO pour presque tout ce qu'elle est auprès de l'armée congolaise pour que cette situation redevienne à la normale le plus rapidement possible.
Oui, monsieur, tout à fait. D'abord, on doit comprendre que d'un point de vue militaire, la situation à Bunagana est extrêmement volatile. Donc, l'état de fait que l'on constate aujourd'hui n'est peut-être pas celui qui prévaudra demain. Ces choses-là, sur le champ de bataille, bougent extrêmement vite. Donc, la situation n'est pas hors de contrôle, n'est pas hors du contrôle des FARDC et n'est certainement pas hors du contrôle de MONUSCO. Maintenant, pour répondre à votre question, il est important de souligner que l'intégrité territoriale de la RDC est entre les mains et repose sur la responsabilité des forces de sécurité congolaises. Et la MONUSCO s'applique et s'engage à cheminer avec les FARDC et les supporter, et les appuyer dans cette quête de sécurité et de rétablissement de l'autorité gouvernementale sur le territoire de la République. À ce titre, la MONUSCO fournit au FRDC, a fourni durant les derniers jours, durant les jours de combat, a fourni des soutiens notamment en matière de renseignement, par exemple en faisant voler des hélicoptères ou des drones dans les zones affectées par les combats, appui en matière de puissance de feu, que ce soit avec l'artillerie, les mortiers, un appui logistique qui est non négligeable. On parle d'acheminement de nourriture et de denrées comestibles de ce genre-là, ainsi qu'un appui d'évacuation médicale et de soutien à la santé. Donc, tout cet appui-là s'inscrit dans un volet important du mandat que la MONUSCO a ici au Congo, qui est l'appui au FARDC, aux forces de sécurité nationales. Donc, présentement, c'est ce que la MONUSCO fait. De plus, Monsieur le ministre a mentionné d'importants mouvements de population, les populations affectées par tous ces combats, et ça c'est clair, ce n'est pas une situation qui est facile pour les gens qui habitent cette région-là. Mais le nombre important de gens qui ont dû se déplacer doivent utiliser les routes, doivent se rendre dans des endroits sûrs. Et c'est ce que fait présentement la MONUSCO dans les zones arrière des combats. C'est que la MONUSCO s'emploie à sécuriser les axes routiers. On parle notamment de l'axe Kibumba-Kiwanja, ainsi que l'axe qui se situe entre Chengeroro et Rutshuru. Ce sont deux exemples parmi d'autres que la MONUSCO, dans son rôle, qui est son premier volet de responsabilité, c'est de protéger les civils. Alors, dans son rôle de protection des civils, comme vous pouvez le voir, on s'emploie également à rendre l'emploi de ces routes-là sécuritaires pour les réfugiés temporaires qui doivent les emprunter. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, monsieur, mais je vous cède la parole.
Lieutenant-colonel Harvey, les populations congolaises demandent notamment, est-ce que lorsque ces forces qui occupent aujourd'hui Bunagana ont foulé le sol congolais et lorsque elles sont parvenues à occuper Bunagana, est-ce que la MONUSCO le savait? Est-ce que la MONUSCO avait prévenu? Et est-ce que la MONUSCO était dans les environs? Et surtout, si la MONUSCO était dans les environs, pourquoi, malgré cela, ces occupants de Bunagana d'aujourd'hui ont quand même réussi à réaliser leur objectif?
Bon, est-ce que la MONUSCO était à Bunagana même au moment où les attaques ont eu lieu? Non. Mais est-ce que la MONUSCO était dans la région? Évidemment, parce que nous avons une brigade d'à peu près 4000 hommes qui opèrent dans le secteur dans ce secteur du Nord Kivu. Et puis nous avons évidemment des bases temporaires qui sont situées notamment à Chengerero, par exemple. Donc oui, la MONUSCO y était. Bon, est-ce que c'est nous qui avons établi le contact avec ces forces, comme vous le mentionnez, ces forces d'invasion-là? Non, ce n'est pas nous. Et encore une fois, je réitère que la responsabilité de maintenir l'intégrité territoriale de la République repose sur les maires et FARDC. Et c'est eux qui s'en sont acquittés. C'est eux qui ont entré en premier en contact avec ces éléments ennemis et qui ont commencé à solliciter l'appui de la MONUSCO dès le début des opérations de combat. Voilà.
Alors, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que fait exactement la MONUSCO auprès de l'armée congolaise pour pouvoir rétablir la situation?
Comme j'ai mentionné, nous continuons de fournir cet appui en matière de renseignement, en matière de puissance de feu, de logistique et de soutien à la santé pour appuyer nos collègues des FARDC. De toute évidence, je ne peux étaler sur des ondes d'une radio publique les stratégies militaires qui découlent de cet appui et ainsi que les plans qui sont en cours d'élaboration. Alors, à votre question, je ne puis répondre que par des généralités, malheureusement.
Nous vous gardons dans ces débats, mon lieutenant-colonel, pour continuer à approfondir les échanges. Professeur Moïla Tchiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France, quelle est déjà votre analyse de ce qui s'est passé depuis hier, l'occupation de Bunagana par le M23, la position de l'armée congolaise qui indique que pour elle, c'est carrément l'armée rwandaise qui a envahi cette partie de la République démocratique du Congo et l'évolution ce soir de ce feuilleton. Professeur Moïla Tchiembe, apparemment, on a discuté depuis le début pour garder le professeur Moïla Tchiembe dans ce débat. Espérons que la réalisation arrive à le récupérer. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, également ancien gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Que sait-on en ce moment même du nombre des personnes qui ont quitté Bunagana? Y en a-t-il les populations qui sont restées? Comment vivent les uns et les autres, c'est-à-dire ceux qui ont quitté Bunagana pour aller là où ils ont pu aller? C'est où exactement leurs destinations actuelles? Comment vivent ces personnes? Et comme je souhaitais le savoir, y en a-t-il qui sont quand même restés et quelle est leur situation?
Oui, la situation actuelle, c'est qu'il y a une bonne partie de la population de Bunagana qui a traversé la frontière. Pour ceux qui ne savent pas, Bunagana, c'est à 0 mètre de l'Ouganda. C'est à un pas. Donc, vous êtes à un pas RDC, la barrière, et puis directement, c'est l'Ouganda. Et tout le monde peut se rendre compte que lorsqu'il y a des coups de balle, c'est que le premier lieu par lequel la population doit passer, c'est la route vers l'Ouganda. Et donc, une bonne partie est allée en Ouganda, mais une bonne partie avait déjà évacué pour rentrer sur le tronçon qui va vers Rutshuru, les chefs-lieux du territoire. Parce que les gens veulent toujours vivre mieux chez eux qu'à l'extérieur du pays. Parce que selon les lois internationales, lorsque les réfugiés arrivent en Ouganda, on ne laisse pas la frontière, on doit les amener à plus de 100 kilomètres. Ou pour devoir retourner chez eux, il faut des mécanismes qui intègrent les hauts commissaires des Nations Unies et c'est trop lourd. Voilà pourquoi les gens préfèrent plutôt entrer dans les profondeurs du territoire congolais pour se réfugier auprès des familles d'accueil. Et donc les besoins immédiats qui se posent, c'est celui de l'assistance humanitaire avec près de 50 000 personnes qui ne sont plus chez elles et tout ça sur le dos effectivement de cette coalition du Rwanda, comme les militaires l'ont si bien reconnu, soutenant à ce cheval de Troie qui est le M23. Et donc, nous pensons vraiment que la communauté internationale devrait saisir toutes ces questions pour finalement qu'à travers toutes les organisations régionales et internationales, on examine à fond les relations entre la RDC et le Rwanda. Étant donné que du côté de la République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu, même pas un seul instant, même pas un seul rêve de devoir attaquer le Rwanda. Même pas dans les rêves qui sont inouïs, je n'ai jamais vu une seule autorité congolaise penser qu'on peut attaquer le Rwanda. Donc, je crois que nous sommes de bonne foi. Malheureusement, dans les relations internationales, c'est pas la bonne foi qui compte. Il faut que nous nous organisions pour que nous sécurisions effectivement nos frontières. Est-ce qui est en train d'être fait? Je peux vous dire que les populations qui ont fui en Ouganda et à l'intérieur du territoire congolais ont besoin d'assistance. Le gouvernement congolais s'active parce qu'on ne peut pas amener l'assistance là où crépitent encore les balles. Mais je crois que dans les matins qui vont suivre, la donne de Bunagana et des environs va devoir changer et la population va recouvrer sa vie d'avant. Totale, et sa vie comme ça a été le cas.
Avant ces événements.
En 2013, c'était la même chose. Je suis arrivé moi-même le 6 novembre 2013 à Tchanzu pour signaler et sceller la capitulation du M23. Il en sera de même, quel que soit l'appui qui est fait. Et je salue ici la contribution de la MONUSCO, donc des Nations Unies, qui accompagne les forces armées et qui tiennent à ce que l'intégrité du territoire national soit sauvegardée. Tout ce qu'on avance comme motif, fallacieux, FDLR, haine tribale, ce sont des ingrédients qui sont comme des épouvantails qu'on sait vendre à la communauté internationale pour les gens qui ne maîtrisent pas la région des Grands Lacs. Mais pour nous, qui avons cette maîtrise de la région des Grands Lacs, nous savons que la moyenne d'âge des gens qui sont venus du Rwanda en 1994 était située entre 22 ans et 42 ans. Et donc 28 ans après, ces gens qui sont venus du Rwanda ont une moyenne d'âge située entre 50 et 70 ans. Et donc, physiquement, ça ne pourrait pas constituer une menace pour devoir alimenter les alibis d'un pays à croire qu'il doit être attaqué par des gens vieux de 70 ans, de 80 ans. Donc ce sont des choses que nous devons porter à la connaissance du monde pour qu'on cesse de les utiliser comme des prétextes de pouvoir attaquer un pays alors que nous voulons construire des relations solides entre États de la région des Grands Lacs et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a adhéré à l'East African Community pour que le problème entre nous se pose à l'intérieur de cette organisation et non pas être posé par chaque État pris individuellement.
Ministre de l'Industrie, également ancien gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans, Julien Paluku, quelle réponse réservez-vous à ces nombreuses allégations qui ont fusé aussi ça et là de la trahison de l'armée ougandaise qui est en collaboration en ce moment sur certaines opérations avec la République démocratique du Congo? Y a-t-il eu trahison, facilitation de l'armée ougandaise sur le sol congolais, facilitation des nouveaux occupants de Bunagana ou pas?
Pour le moment, nous sommes en mutualisation des forces avec les forces ougandaises. Je ne peux pas croire que, en même temps que nous sommes en train de mutualiser nos forces pour traquer les EDF, en même temps la même armée ougandaise soit derrière les rebelles. Mais comme l'armée est toujours composite, il peut y avoir quelques brebis galeuses à l'intérieur qui se seraient donné à ce genre de pratiques, mais je ne suis pas porte-parole de l'armée ougandaise pour devoir donner la distinction entre les brebis galeuses et ceux qui sont restés fidèles à la volonté du gouvernement ougandais de nous accompagner dans ce qu'on est en train de faire. Tout ce que je sais, c'est que si cela s'avère vrai, le gouvernement ougandais devra prendre des sanctions à l'endroit de ceux qui auraient facilité ce genre de transactions entre certains de ces éléments et la coalition M23 et l'armée rwandaise. Donc au stade actuel, il n'y a pas encore de message officiel. Tout ce que je sais, c'est que nos militaires qui sont passés par l'Ouganda ont été bien accueillis et aux dernières nouvelles, ces militaires ont été facilités, certains d'entre eux à gagner le sol congolais.
Merci. Professeur Moïla Chiembe, est-ce que vous êtes avec nous finalement? Moïla Chiembe? Alors, on espère vraiment que avant la fin de cette émission, on aura quand même l'analyse du professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France, lieutenant-colonel Harvey, officier de liaison de la MONUSCO auprès des FARD. C'est un peu la même question qu'au ministre tout à l'heure. Que savez-vous de ces allégations qui sont très répandues, surtout dans les réseaux sociaux, que l'armée ougandaise en activité en ce moment en République démocratique du Congo aurait facilité ou accompagné la coalition M23 et les hommes de l'armée rwandaise à occuper Bunagana?
Bon, d'abord, monsieur, on doit se rappeler que dans une situation, d'un point de vue militaire, toujours dans une situation comme celle-ci, les rumeurs vont bon train et que la vérité est toujours la première victime de la guerre. On ne doit pas l'oublier. Et il en va de d'autres rumeurs qu'on entend fuser de part et d'autre sur toutes sortes de sujets et celui-là en est un parmi tant d'autres. Donc, on doit faire très attention à ce serment de mauvaise foi et de volonté de désinformation. Comme l'a mentionné M. le ministre, et j'en fais écho, comment l'Ouganda qui participe de façon active à combattre en collaboration avec les FARDC et la MONUSCO, notamment le groupe ADF près de la région de Beni et dans le sud de l'Itourie, comment se fait-il qu'ils auraient pu tout d'un coup comme ça se mettre à trahir le Congo? Bon, ça ne fait pas beaucoup de sens. D'ailleurs, ça ne fait pas beaucoup de sens pour personne. La représentante spéciale, Mme Bintou Keïta, réitère à cette occasion son appel au calme de tout le monde, non seulement des Congolais, mais des pays limitrophes et voisins également, et de toutes ces rumeurs qui circulent. Et elle salue notamment l'initiative du président angolais, João Lourenço, qui s'est imposé comme qui a été nominé comme médiateur pour la question sur ce qui se passe dans l'est de la République. Donc, pour répondre franchement à votre question, non, nous n'avons rien vu ni entendu qui laisse sous-entendre que l'Ouganda serait ou aurait trahi leurs alliés FARDC.
Merci, lieutenant-colonel. Professeur Moïla Chiembe, bonsoir. Professeur Moïla Chiembe, bonsoir. Je crois qu'on a visiblement des problèmes de communication avec Moïla Chiembe pour ce soir. Monsieur le ministre, Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, également ancien gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas seuls à avoir le discours ce soir pour nourrir cette émission. Les populations congolaises, comme vous le savez, nous suivent et ont leur point de vue. Par exemple, Gomez, et vous allez réagir à son point de vue, je ne connais pas, il dit, je le lis, je ne connais pas un seul endroit dans le pays où lorsque un pays est envahi par les armées étrangères, on fait appel à des assises négociations. La CIRGL devrait définir son rôle dans les conflits en République démocratique du Congo. Si on peut jusqu'à présent nier la complicité du Rwanda et l'Ouganda dans cette invasion du territoire congolais, la CIRGL doit également s'impliquer dans la restitution de tous les biens des paisibles populations victimes abîmées. Qu'est-ce que vous avez comme réaction à ça?
Oui, la réaction est tout à fait simple. D'abord, les actes de piège qui sont perpétrés à Bounagana démontrent que ce n'est pas quelqu'un qui vient libérer la population comme il le sous-attend. C'est donc quelqu'un qui sait qu'il est là pour quelques moments, il faut très rapidement s'abreuver sur les biens de la population et repartir, parce que la puissance de feu qui arrive est tellement forte qu'il ne saura pas résister à ça, quelles que soient les alliances qu'il va tisser. De deux, dans toute guerre, il y a toujours trois options. Il y a l'option politique, c'est-à-dire où on doit continuer à parler, l'option diplomatique où on doit impliquer les pays voisins, les États internationaux pour qu'elles aussi puissent utiliser leur savoir à travers les expériences, mais également l'aspect militaire. Et tous ces aspects-là sont toujours combinés. À la fois que les autres sont sur le terrain politique, les autres sur le terrain diplomatique, les militaires doivent être sur leur terrain militaire parce qu'ils doivent respecter leur serment de veiller à l'intégrité du territoire. Est-ce qu'il est en train d'être fait? Donc lorsque la CIRGL convoque ses assises et d'autres organisations, eh bien, c'est pour essayer un peu d'interroger les acteurs au niveau régional, le président rwandais qui est cité à travers son armée, pour qu'il donne les mobiles pour lesquels, à l'heure qu'il est, il peut intervenir en République démocratique du Congo, alors que le territoire rwandais n'est pas menacé. Donc c'est tout à fait normal que ce père chef d'État puisse lui poser certaines questions pour qu'il le dise, certainement qu'il va toujours dérouler les mêmes discours de FDLR et de haine tribale qui n'en existe pas au Nord Kivu. J'ai été là depuis 12 ans.
Mais monsieur le ministre, oui. Pourquoi les informations et les preuves que détient la République démocratique du Congo pour prouver qu'elle est attaquée, qu'elle est envahie, des éléments selon la RDC indiscutables, pourquoi la RDC ne les présente-t-elle pas à toutes les instances, à toutes les organisations qui se réunissent pour parler de sécurisation et paix en République démocratique du Congo? Et pourquoi la RDC ne les oblige pas ou ne les pousse-t-elle pas à proclamer comme elle que son pays est attaqué et que les assaillants devraient arrêter tout de suite en les citant nommément?
Oui, c'est comme si vous avez donné vous-même la réponse à votre interrogation. Effectivement, c'est dans ces assises où la RDC est en train de présenter toutes les preuves, y compris les photos des militaires rwandais, avec leurs identités, leurs cartes, y compris les images satellitaires que nos drones ont pu prendre et d'autres instruments qu'on ne peut pas citer ici, y compris l'implication du mécanisme conjoint de vérification élargie qui a l'ensemble des pays membres de la CIRGL. Donc toutes ces preuves-là sont en train d'être rassemblées par toutes ces structures et présentées dans les différentes réunions au niveau national et international pour permettre d'étoffer l'argumentaire de la RDC qu'elle est effectivement agressée, qu'il ne s'agit pas de ces arguments qui sont en train d'être vendus. Donc, ce que vous êtes en train d'avoir comme crainte est rencontré par les éléments que nous présentons dans toutes les organisations, au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies. Des délégations sont parties partout pour devoir convaincre le monde entier de la manière dont le pays est agressé aujourd'hui avec ces preuves-là. Et c'est l'essence aujourd'hui des condamnations qui fusent de partout les Nations unies, l'Union européenne. C'est parce que la RDC est en train de faire un travail de titan pour démontrer effectivement que tout ce qui est donné comme allégation de la part du gouvernement rwandais est faux et archi-faux, et jamais la RDC ne peut recourir au FDLR pour se donner une capacité militaire. Sinon alors, on dirait que et la RDC et la MONUSCO n'ont pas de force, ils ne peuvent avoir de force que lorsqu'ils s'appuient au FDLR. C'est quand même une moquerie et aux Nations Unies et au gouvernement congolais de croire que nous ne sommes forts que lorsque nous allons nous allier aux vieilles gens dont l'âge est situé entre 70 et 80 ans pour devoir attaquer les Rwandais selon l'argumentaire du Rwanda. Donc je crois que ces vieux discours-là doivent cesser d'alimenter les conversations et nous focaliser vers le développement économique de la région des Grands Lacs, vers la stabilité, vers la paix, vers la construction des ponts de paix, vers le partage des expériences de développement ici et là. Ce sont ces genres de discours qui doivent nous animer dans la région des Grands Lacs, pas les vieux discours qui attisent la haine et les conflits, alors que nous avons besoin plus de la paix que de ces discours-là.
Lieutenant-colonel Harvey, officier des liaisons de la MONUSCO auprès des FRDC, vous allez aussi essayer de donner votre interprétation du commentaire de cet auditeur, Martin.
Martin Bakonga, depuis la ville de Kinshasa. La situation qui se prévoit aujourd'hui, c'est une situation qui n'est pas claire de la part de nos autorités. Je ne peux pas comprendre que officiellement nous sommes attaqués par les Rwandais. Les Rwandais se permettent d'occuper notre territoire et que jusqu'à aujourd'hui, l'ambassadeur du Rwanda, M. Karega, continue à travailler normalement comme si rien n'était. Ce qui m'a été notre surprise encore, pendant qu'on a arrêté les militaires rwandais, nous avons voulu que ce militaire soit jugé publiquement pour qu'il soit condamné. Quelle a été notre grande surprise? Ces militaires sont partis, hélas. Comprenez mon émotion. Si ça continue comme ça, on risque de prendre Goma. À ce moment-là, nous aurons que nous juger pour plaire.
Lieutenant-colonel Harvey?
Oui, d'abord, merci à M. Martin pour cette question qui est très à propos. Bon, à tout ce qui a trait à la question rwandaise dans cette histoire, et là on parle évidemment de l'implication des forces rwandaises ou du Rwanda lui-même. Bon, comme a mentionné M. le ministre, la ville de Bunagana, c'est immédiatement sur la frontière. Et lorsqu'on parle de conflits de ce genre-là, qui se déroulent dans des zones frontalières, il est extrêmement commun que des incidents ou que des rumeurs ou que des campagnes de désinformation puissent exploiter le fait que le pays voisin soit si près et que là on commence à procéder à des accusations, des contre-accusations et tout ça. En ce qui concerne la MONUSCO, nous n'avons pas encore pu confirmer par nos propres moyens que les forces rwandaises étaient en appui au M23 et qu'ils étaient dans le territoire de la RDC. Donc, par nos moyens, nous n'avons pas de preuves que cela est le cas.
Merci, lieutenant-colonel Harvey, merci. Professeur Moïla Chiembe, nous allons essayer de tenter une dernière fois, avant de conclure cette émission, d'avoir professeur Moïla Chiembe. Moïla Chiembe, bonsoir, vous êtes là? Directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy. Cette émission va se terminer sans qu'on ait le professeur Moïla Chiembe. Désolé pour nos auditeurs qui attendaient d'avoir l'analyse de cet analyste habituel à notre émission. Monsieur le ministre, nous sommes en train de conclure cette émission. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, également ancien gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Comment expliquez-vous que la RDC, qui est presque en guerre avec le Rwanda, ne rappelle pas son ambassadeur au Rwanda et ne congédie pas celui du Rwanda dans son pays? Pas que les Congolais ne l'acceptent pas, mais au moins, ça donnerait d'autres signaux forts pour montrer la désapprobation de la RDC. Pourquoi cela n'est pas fait?
L'important pour la République démocratique du Congo, c'est d'abord de récupérer les espaces de son territoire national. Il ne faut pas que on soit distrait par des mesures qui ne nous permettent pas d'abord de nous concentrer sur la récupération de notre espace national, et puis d'autres mesures peuvent suivre. Donc si nous nous mettons à être sur plusieurs fronts, nous n'allons pas réussir à arriver au front principal. Le front principal, c'est le rétablissement de l'autorité sur l'espace national, notamment Bunagana et ailleurs. Et cela m'amène à lancer un message pour dire les peuples du Rwanda, les peuples de la RDC, les peuples d'Ouganda, c'est des peuples qui vivent ensemble. Si vous voyez les activités qui se passent entre ces peuples-là, entre les Rwandais et la RDC, il y a 60 000 passages à la grande et petite barrière du Nord Kivu. 60 000 passages par jour, pour montrer qu'entre les peuples, il ne se pose pas de problème. Et donc, les leaderships du Rwanda, de l'Ouganda et de la RDC devaient comprendre que les peuples ont besoin de cohabiter ensemble. Ces peuples-là n'ont pas besoin, au niveau du leadership, des discours qui ont tendance à les opposer inutilement. Il faudrait que le leadership de ces pays les comprenne ainsi, et tous, si nous nous mettons à construire cette cohésion, cette paix dans la région des Grands Lacs, chacun va tirer des dividendes pour son développement. Mais lorsqu'il y a la guerre, il y a des gagnants et des perdants. Le message suivant, c'est de dire au M23 que jamais, et alors jamais, la RDC ne leur cédera pas une portion du territoire national. C'est clair et net, depuis 1997 à aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans, on n'a jamais réussi à prendre une seule portion. Ce n'est pas en 2022, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, qu'un seul centimètre va être cédé à qui que ce soit. C'est un message fort qu'ils doivent savoir, qu'ils intègrent le processus de désarmement immédiat et sans condition, et c'est cela la volonté du gouvernement congolais dans lequel je siège comme ministre, mais en intervenant ici, à la fois comme ancien gouverneur, mais comme notable et expert dans ces matières de la région des Grands Lacs.
Monsieur le ministre Julien Paluku, ça fait déjà 24 heures que la ville de Bounagana est occupée par des forces autres que l'armée de la République démocratique du Congo. Vous n'allez pas dévoiler ici, comme vous l'avez dit en introduction de l'émission, les stratégies militaires, mais vous pensez que les choses reviendront à la normale, que Bounagana sera libérée, que ces populations pourraient la regagner dans à peu près combien de temps?
Le M23 a occupé la ville de Goma du mardi 20 novembre 2012 au 1er décembre 2012. Ça fait 11 jours. Et je peux affirmer qu'il ne sera pas question, à moins de ce délai pour lequel le M23 a pris la ville de Goma, eh bien, Bounagana et ses environs seront totalement contrôlé par l'armée congolaise. C'est la volonté du président de la République, c'est la volonté du premier ministre et c'est le souhait de toute la population du Nord Kivu qui vient de toutes les localités de Bounagana, de Bougoussa, de Tchanzu, de Runyonyi, de Bouzi et de Ntamugenga, de partout. Toutes ces localités-là sont mobilisées pour opposer une farouche résistance. Le M23 voulait tenir même une réunion à Bounagana. Les gens leur ont dit, on ne veut pas de vous, messieurs, rentrez d'où vous êtes venus. Nous voulons regagner chez nous, car vous ne serez pas là. Donc, au niveau de l'appropriation populaire, ils n'ont aucune appropriation populaire de l'action qu'ils sont en train de mener, parce que tout le monde sait qu'en 2013, il ne restait pas plus de 200 éléments du M23. Si aujourd'hui le gouvernement tient à ne plus les intégrer dans l'armée, c'est parce que si on entame des négociations, ils vont vous sortir des chiffres de 5000 personnes qu'ils n'ont pas, pour encore revenir avec des éléments incontrôlés au sein de nos forces armées, ce qui va nous replonger dans un cycle infernal de recommencement avec des mutineries par des gens qui ne sont pas maîtrisés. Donc ces choses-là, c'est fini, l'intégration automatique des rebelles avec leurs complices au sein de notre armée. Merci. Nous devons recruter des militaires qui doivent faire désormais notre armée, ne pas prendre des brassages et des mixages déjà inconnus à intégrer dans l'armée.
Merci Julien Paluku, ministre de l'Industrie, également ancien gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir pris le temps de venir ici nous éclairer davantage. Lieutenant-colonel Harvey, officier de liaison de la MONUSCO auprès des FRDC, nous concluons cette émission. Vous savez que les populations congolaises souhaitent toujours savoir ce que la MONUSCO peut faire pour amener cette armée à atteindre les objectifs. Alors, à cette population qui vous écoute, que peut être votre mot de la fin?
Eh bien, monsieur, d'abord, la MONUSCO va continuer de faire ce qu'elle fait depuis maintenant plus de 20 ans auprès de la République, mais également auprès des FRDC. Et les 400 et plus soldats de l'ONU qui ont payé leur vie, de leur vie, qui ont versé le sang sur le territoire du Congo depuis ces 20 années, en portent témoignage. Nous allons continuer de faire ça, que ce soit l'appui au FRDC et la protection des civils également, que nous continuerons de faire avec la diligence dont on nous connaît. Alors, je terminerai en disant ceci, c'est que la situation n'est pas celle de 2013. Pour deux raisons. Le M23 n'est plus l'ombre de lui-même, de ce qu'il a été, et ils affrontent aujourd'hui une FRDC qui n'est plus non plus celle de 2013. On a une armée plus aguerrie et qui possède une volonté accrue et résolue de mettre fin à ce conflit dans des conditions qui sont favorables à la RDC. Donc nous sommes loin du scénario de 2012-2013. Merci.
Merci beaucoup à tous les deux, messieurs, pour votre disponibilité pour cette émission. Billy Landry Betou et Guillaume Témon aidé à préparer cette émission. Douda Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.